Allez, le point sur l'actualité, le 8h45 d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les enseignants à nouveau mobilisés aujourd'hui contre les groupes de niveau, nous le verrons. Et puis le dossier de ce 8h45 sera consacré à la façon dont Meta fait mine de lutter contre les contenus complotistes. La colère enseignante contre les groupes de niveau ne s'éteint pas aujourd'hui. Est à nouveau une journée de mobilisation à l'appel de plusieurs syndicats et de fédérations de parents d'élèves, tous remontés contre le système des groupes de niveau en français et en mathématiques au collège à la rentrée prochaine. C'est l'une des mesures du programme imaginé par Gabriel Attal qu'il a intitulé « Choc des savoirs ». Le Premier ministre qui a indiqué qu'il amenait avec lui la cause de l'école à Matignon. Il n'a d'ailleurs pas hésité à désavouer la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, qui souhaitait, elle, plus de souplesse sur la mise en place de ces groupes. Cette prise en main de Matignon sur les questions liées à l'éducation a du mal à passer pour Sophie Vénétité, la secrétaire générale du SNES-FSU, principal syndicat de l'enseignement secondaire. Écoutez-la.
C'est vrai que sur les groupes et sur le choc des savoirs, on sent que les choses sont complètement verrouillées du côté de Matignon. Et c'est quand même problématique, puisque quand on dit à la ministre, mais regardez ce qui se passe sur le terrain, regardez comment on est en train de supprimer certains dispositifs, quand on lui montre par A plus B que la flexibilité qu'elle appelle de ses voeux en faisant passer les élèves d'un groupe à un autre au cours de l'année, ça ne sera pas possible. Et de toute façon, ça ne sera pas dans l'intérêt des élèves, puisque ça veut dire qu'un élève de 11 ans passe d'une classe à un groupe à un autre groupe, ce qui est assez perturbant, cette réalité du terrain, elle ne l'entend pas, voire elle nous y oppose des éléments de langage qui sont bien rodés. Donc on a des échanges, des discussions qui sont plus apaisées qu'avec Amélie Oudéa-Castéra, mais sur le fond, on sent bien que les choses sont verrouillées du côté de Matignon, parce que finalement, il s'avère que Gabriel Attal a bien emporté l'éducation nationale avec lui à Matignon.
Un propos recueilli par Hakim Kasmi. Par ailleurs, un rapport parlementaire qui doit être présenté cet après-midi en commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale étrie le financement public de l'enseignement privé sous contrat, majoritairement catholique. Les rapporteurs ont auditionné près de 60 organismes de l'enseignement privé qui scolarisent 17% des élèves en France et sont financés à minima à 75% par la puissance publique. Ils pointent un manque de transparence dans l'allocation de ces près de 9 milliards d'euros par an, un manque de contrôle ou encore des angles morts dans le contrôle pédagogique. Enfin, un manque de contrepartie à la hauteur des financements. En témoigne la dégradation de la mixité sociale et scolaire dans ces établissements. Pardon. Et puis le Sénat vote aujourd'hui une réforme constitutionnelle à propos de la Nouvelle-Calédonie. Les sénateurs devraient approuver le dégel du corps électoral du scrutin provincial de la collectivité. Il s'agit de permettre à tous les natifs de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux résidents établis depuis au moins 10 ans de voter aux élections provinciales. Ce corps électoral était gelé depuis 1998, privant de droit de vote aux élections provinciales près d'un électeur sur 5. Une frappe israélienne a tué 7 travailleurs de l'organisation d'aide alimentaire World Central Kitchen à Gaza. Les victimes étaient originaires d'Australie, de Pologne, du Royaume-Uni ou encore du Canada. Leur chauffeur, également décédé, était d'origine palestinienne. La frappe, qualifiée d'incident tragique par Israël, a ému jusqu'à la Maison-Blanche, qui dit avoir le cœur brisé et demande à l'armée israélienne de faire toute la lumière. Enfin, une attaque de drones a visé des usines au Tatarstan en Russie ce matin, à plus de 1100 km de la frontière avec l'Ukraine. Des personnes seraient blessées. L'Ukraine qui multiplie ses attaques contre la Russie ces dernières semaines en visant notamment des sites énergétiques, ce qui est le cas de ce dernier site visé, il abritait des usines chimiques notamment.
Suite du 8h45 d'Anne-Laure Chouin avec un dossier consacré au complotisme sur Internet.
Et à la façon dont l'un de ses principaux vecteurs, Facebook, les envisage en annonçant la suppression de son logiciel CrowdTangle au cours de l'été prochain. Cet outil est utilisé encore aujourd'hui pour garder un œil sur les grandes tendances qui animent les réseaux sociaux, Facebook et Instagram en particulier. Il permet notamment de surveiller la propagation de théories du complot ou les campagnes de manipulation de l'information orchestrées depuis l'étranger. Une fonction particulièrement utile lors des périodes électorales. On fait le point avec Pierre Repère.
Racheté en 2016 par Facebook, le logiciel CrowdTangle devait permettre de prendre le pouls du réseau social en faisant émerger les contenus viraux les plus partagés. Pendant des années, cet outil a ainsi permis, essentiellement aux journalistes et aux chercheurs, de suivre en temps réel la propagation des théories du complot et des fake news. L'outil a par exemple été utilisé pendant les élections américaines de 2020 pour identifier rapidement la désinformation en ligne ou encore lors de la crise Covid pour analyser la propagation des fausses informations concernant les vaccins. Après 8 ans de bons et loyaux services, CrowdTangle va donc disparaître le 24 août prochain. L'outil pourrait bien avoir fait les frais de sa propre efficacité. La décision de Meta survient en effet après que des journalistes ont utilisé CrowdTangle pour pointer du doigt les manquements de Facebook dans la modération de ses propres contenus. De son côté, la fondation Mozilla a demandé à repousser la suppression du service à début 2025, car la disparition de CrowdTangle interviendra à 3 mois des élections américaines et en l'absence de cet outil, il sera plus difficile encore de surveiller les dommages causés par la désinformation. La maison mère de Facebook, Meta, a cependant annoncé que le logiciel devrait être remplacé. Le nouvel outil n'aura pas les mêmes fonctionnalités et ne sera accessible qu'aux organismes sans but lucratif.
La suppression de ce logiciel s'inscrit aussi dans une politique plus large de Meta qui consiste à plutôt minimiser les contenus polémiques pour ne pas avoir à les modérer. C'est ce qu'explique en tout cas Fabrice Eppelboin, entrepreneur spécialiste des médias sociaux et enseignant à Sciences Po Paris.
Facebook a une stratégie de boîte noire. Idéalement, s'ils ne veulent pas qu'on aille regarder de trop près ce qui se passe réellement sur leur plateforme, le mieux c'est d'éviter d'avoir des outils qui permettent de le faire. On est quand même face à une plateforme qui essaye plus ou moins de contenir la haine, les fake news, et qui, chaque fois qu'ils essaient de faire quelque chose, aboutit sur une nouvelle catastrophe encore pire que la précédente. Cambridge Analytica étant la plus connue. Donc aujourd'hui, ils en sont au stade où ils misent le tout. Typiquement, la Palestine est totalement invisibilisée sur Meta. Très clairement, leur stratégie, c'est d'éradiquer tout contenu qui puisse générer une polémique. Ce qui réduit de facto la haine. Ça faisait partie des conséquences prédites sur ce qu'on appelle généralement la lutte contre les fake news. C'est que si vous voulez tarir la haine qui est sur les réseaux sociaux, la seule façon rationnelle de le faire, c'est en éliminant tout ce qui n'est pas des petits chats, quoi, pour être caricatural. Et c'est ce qu'a fait Meta, aussi bien sur Instagram que sur Facebook. Mais si vous voulez éliminer la haine, vous allez éliminer la liberté d'expression.
Un dossier de Pierre Ropper. Le temps de ce mardi, toujours au cru, vigilance rouge en Bourgogne, averse et vent sur la moitié nord, plus lumineux au sud, comptez de 12 à 19 degrés cet après-midi.